en dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec un dialogue sur les ondes de Radio VM. Je m'entretiens aujourd'hui avec le père Gilles Barrette, missionnaire d'Afrique, ancien provincial des Amériques, et également avec sœur Elisabeth Villemur, sœur missionnaire d'Afrique. On les appelle également les pères blancs et les sœurs blanches. Cet institut missionnaire de droit pontifical a été fondé en 1868 et son pendant féminin l'année suivante, en 1869. Il fête donc leurs 150 ans. Un nom lui est intimement lié, c'est lui de Charles Martial Lavigerie, né en France en 1825, nommé archevêque d'Alger en 1867 et décédé en 1892 dans la même ville. Une phrase que l'on cite souvent de lui, je cite, « J'ai tout aimé dans notre Afrique, son passé, son avenir, ses montagnes, son ciel pur, son soleil, les grandes lignes de ses déserts, les flots d'azur qui la baignent », fin de citation de Lavigerie. Bonjour sœur Elisabeth, bonjour père Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Et bon anniversaire, c'est fêté 150 ans, c'est pas tous les jours qu'on fête ça?
Ça fait, c'est une fois par siècle.
À ce qu'il paraît, oui. On va commencer.
Du 8 décembre qui vient jusqu'au 8 décembre de l'année suivante, si bien que la fondation des deux instituts correspond à cette période-là.
C'est une bonne idée. Et puis il y aura une année de festivités, j'imagine, de conférences,
d'activités. On a eu 3 ans de préparation, puis ensuite on va suivre.
Pour le 200e?
Pour le 200e, etc.
Pardon, disons quelques mots d'abord du fondateur de... Ce n'est pas un ordre religieux, c'est un institut missionnaire de droit pontifical. On verra la différence. Charles Martial Lavigerie, qui est-il?
C'est un monsieur né à Bayonne, dans le sud de la France, ouest de la France, qui a été étudiant comme tous ceux de son époque. Et puis, il a décidé, dans sa famille, s'il n'était pas un papa et une maman très spécialement marqués par la religion, c'est les bonnes, donc il était d'une famille aisée, c'est les bonnes qui ont plutôt éduqué, inculqué les premiers rudiments de la foi chrétienne, du signe de croix, etc., à Charles. Et tout d'un coup, il a, à la fin de ses études, qu'on appellerait maintenant fin du cégep, qui n'existait pas à ce moment-là en France, même pas aujourd'hui, il a décidé d'entrer au grand séminaire. Et c'était une surprise pour toute la famille, sauf les deux bonnes. Donc, ça a commencé comme ça. Et son parcours a continué, l'ordination, puis il a été envoyé aux études, il s'est spécialisé dans les premiers siècles de l'Église, entre autres, la question qui va nous influencer, nous, ensuite, comme travail apostolique, comment accompagner des adultes vers le baptême, le catéchuménat.
Et ça, c'était vraiment une des choses qu'il a étudiées et qui va déteindre sur les missionnaires d'Afrique.
Exact.
Pardonnez-moi, Gilles Barrette, mais Elisabeth Villemur, vous êtes sœur blanche, donc également missionnaire d'Afrique. Est-ce qu'il y a un pendant féminin à Charles Lavigerie? Ou est-ce que vous partagez la même spiritualité, les mêmes... Tout est semblable, sauf que vous êtes des femmes?
Nous partageons la même spiritualité et Charles Lavigerie est notre fondateur aussi. Il nous a fondé une année après avoir fondé les pères. Mais nous avons aussi une personne qui a été très signifiante dans notre histoire. Elle s'appelle Marie Salomé, aussi une Française, bretonne, qui, sans elle, je crois, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Mais nous ne la considérons pas comme fondatrice, ni même comme cofondatrice.
On ne va pas s'attarder sur Lavigerie. En revanche, il devient archevêque d'Alger et c'est ce qui nous intéresse. Nous, on est en 1867. Il y a une famine, il y a le choléra en Algérie qui est possession française depuis 1830.
C'est considéré l'Algérie comme un des départements de la France.
Voilà. Bon,
à ce moment-là. Et le département de la France, ils ont un évêque, ils ont une communauté chrétienne, catholique, etc. Il avait fait ses premières armes comme évêque à Nancy en 1863 jusqu'à ce qu'il soit nommé à Alger. Il arrive et trouve une situation de famine. Avec toutes les conséquences au plan santé que cela peut poser. Et il fait appel à la communauté catholique pour aider les populations affectées par la famine. Peu ou très peu de réponses. Bon. D'autant plus que le gouverneur, je ne sais pas comment on appelait le responsable français de ce département, il s'appelait M. McMahon, avait carrément dit à l'Alvégerie, comme il le disait à tout le monde, de ne pas faire de prosélytisme, de ne pas énerver les musulmans pour rien, et donc de ne pas s'occuper des musulmans.
C'est-à-dire qu'il allait là pour s'occuper de la communauté catholique, sans
sa
plus.
Sa nomination, c'était ça.
On est en 1867, il n'est déjà pas d'accord avec McMahon en France, il va fonder, je télescope peut-être un petit peu, mais en 68, un an plus tard, les Pères Blancs, enfin la société, comme, elle avait un nom, non?
La Société des Missionnaires d'Afrique, comment ça s'appelle maintenant? Géronimo.
Géronimo. Alors, quel est le but de cette fondation? Il contrevient complètement aux ordres civils.
Vous ne pouvez pas m'empêcher de les aimer, les musulmans, oui, comme un père. Ils souffrent, on va s'occuper d'eux. Et donc, puisque les catholiques ne se mobilisent pas pour venir en aide à ceux et celles qui souffrent de la famine, je vais fonder une nouvelle branche religieuse et c'est devenu les Missionnaires d'Afrique et puis les Sœurs Blanches.
Et en, ça, c'est en 1868?
68,
oui. 8, hein? Et en 1869, un an plus tard, Elisabeth Villemur, le pendant féminin, avec... toujours pour des raisons de santé, pour prendre soin des affamés, des orphelins, du choléra et tout ça?
Oui, et puis vous savez, étant donné que c'est un milieu musulman,
oui,
les hommes ne peuvent pas s'approcher des femmes. Alors, le cardinal Lavégerie a vu que pour lui, c'était absolument nécessaire d'avoir des femmes pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des femmes. Oui, alors c'est comme ça que l'idée de fonder la branche féminine, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, est venue au cardinal Lavégerie.
Et l'idée aussi, c'était de... Il faut dire une chose, c'est qu'il y avait aussi des jésuites qui ont influencé le cardinal Lavégerie. Et l'inculturation était très importante. Il leur a dit aux missionnaires, hommes ou femmes également, vous mangerez comme eux, vous parlerez leur langue et vous vous habillerez comme eux, d'où père et sœur blanc.
Voilà.
C'est ça, c'est pas parce qu'ils étaient blancs de peau, c'est parce qu'ils portaient le burnous ou la gandoura.
Oui, exactement. On ne pouvait pas reconnaître de dos une femme arabe avec une sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique qui était en marche, par exemple, parce que l'habit était bien identique.
Dans les années 1870, c'était un projet qui était accueilli favorablement chez les musulmans ou c'était vu comme une intrusion?
Du moment qu'il y avait une aide en temps de famine et puis les épidémies qui ont suivi... Alors là, la population a été très accueillante, peut-être un peu méfiante au début, parce qu'enfin, des Blancs qui s'occupaient d'eux, ils n'en avaient pas vu beaucoup. Mais l'accueil a été assez grand du fait qu'ils vivaient des situations de détresse, de pauvreté, de maladie, et on s'occupait d'eux.
J'avais dit précédemment que vous n'étiez pas un ordre religieux, mais un institut missionnaire de droit pontifical, fondé en 1868 et en 69 pour les femmes, ce qui explique le fait que vous ne prononcez pas de vœux, mais des serments. Alors, il y a chasteté, obéissance et pauvreté, et le quatrième, celui de vrai à l'évangélisation de l'Afrique. On va dépasser l'Algérie, alors.
Oui.
Tout ça, c'est juste ce que je raconte?
Ce que vous racontez, c'est vrai pour les hommes.
Ah.
Nous avons un serment missionnaire qui inclut l'obéissance au supérieur général et à nos constitutions qui prévoient un style de pauvreté, de solidarité entre nous puis avec la population, etc., etc. Alors que les religieuses sont religieuses.
Oui. Et nous faisons les trois vœux de chasteté, obéissance et pauvreté.
Mais l'évangélisation, c'est pas dans votre rayon.
L'évangélisation, oui, c'est la mission pour nous.
Bah oui, j'imagine, oui.
Oui, ça fait partie de vraiment, c'est ce que le cardinal Lavégerie voulait pour nous.
Donc, mais on va dépasser un peu dans le temps, on va accélérer un petit peu. Le cardinal Lavégerie ne va pas s'en tenir à l'Algérie. D'ailleurs, il va être nommé archevêque de Carthage, je pense, quelques temps après. Il sera archevêque de Carthage et de
Tunis,
hein,
oui,
et d'Alger, ce qui est assez rare pour un cardinal. Pour un archevêque.
Il n'était pas encore cardinal.
Pas encore, hein. Enfin, pour un archevêque, c'est bizarre d'avoir deux. Oui, oui, Elisabeth.
Cardinal Lavégerie disait, au fond, que l'Algérie était comme une porte ouverte sur un grand continent de millions d'âmes.
Mm-hmm. Et donc, son ambition, c'était de toute l'Afrique?
Son ambition, c'est de l'égoïsme ou pas? Bon, mais il y avait l'ambition, parce que d'autres congrégations existaient aussi, dont les fondateurs avaient des ambitions similaires.
Oui.
C'est d'être le primat de l'Afrique. Donc, d'avoir des portes d'entrée à travers l'Algérie, puis la Tunisie, en allant vers le sud, et de pénétrer l'Afrique subsaharienne. Mm-hmm. D'autant plus que, en bon historien qu'il était, la Vigerie suivait les informations qui étaient transmises par les explorateurs britanniques et français et hollandais sur la découverte de l'Afrique.
Mm-hmm. Et donc, il rentre là-dedans, évidemment. Faut préciser une petite chose aussi, c'est que ça a été un champion de l'anti-esclavagisme, et c'est lui qui a fait toute une mobilisation en Europe, qui a persuader le Foreign Office britannique de faire une conférence internationale avec 12 ou 16 grandes puissances à Bruxelles.
Oui, puis il a couru les capitales pour prêcher contre l'esclavage.
Oui.
Et puis il y a eu ce fameux toast d'Alger en 1890 où, mm-hmm. là, au nom du pape, il a quand même dit « arrêtons de nous battre, mm-hmm. acceptons la situation politique telle qu'elle est », mais évidemment, après avoir accepté qu'on se batte contre l'esclavage.
Contre l'esclavage.
Ce qui lui a valu une baisse de fonds.
Ah bon? Oui, parce que les catholiques étaient royalistes en général, et lui a dit « ralliez-vous à la République ».
Exact.
C'est ce qu'il dit. Hein. Mmh. Alors, on est en Afrique, et on va aller vers l'Afrique. Il y a le Burkina Faso, enfin, à l'époque, la Haute-Volta. Il y a le Soudan français, le Mali, je pense qu'il sera actif là-dedans. Le Ghana aussi, plus tard. Enfin, peu à peu, vous y place ses pions, si j'ose dire. Gilles.
Il a suivi les routes des indiquées par les grands explorateurs.
Oui. Bon.
Alors, ça allait à travers le Sahara en Afrique de l'Ouest, mm-hmm. qu'elle soit anglophone ou francophone, mm-hmm. devenue, ou bien les traces de Stanleyville et puis, pas Stanleyville, mais de Stanley,
oui.
et au centre
Livingston,
mm-hmm. en Afrique devenue anglophone ou belge. Le roi Albert de Belgique suivait beaucoup ça parce que lui, il voulait avoir la mainmise sur un gros pays qui était à ce moment-là le Congo.
Mm-hmm.
Donc, à travers les routes, découverte par les explorateurs qui nous débarquaient dans différents coins d'Afrique, on pouvait suivre également les routes des esclaves, mm-hmm. pour les libérer.
Exactement. Donc j'imagine que tout le temps, les rapports entre les pères et les sœurs blancs, enfin les missionnaires d'Afrique aujourd'hui, et le pouvoir colonisateur étaient collaboration, conflit. C'était toujours on rentre dans vos bagages, dans votre sillage, mais en même temps, on va corriger vos erreurs.
Disons que c'est très bien dit.
D'accord.
On a eu des hauts et des bas au plan des relations avec les gouvernements, mm-hmm. qui étaient des gouvernements colonisateurs,
oui.
et qui avaient aussi une certaine influence autre que les missionnaires sur les chefs des tribus.
Parlons formation, tant des frères que des sœurs, ou des pères blancs et des sœurs blanches des missionnaires d'Afrique, dont on fête cette année le 150e anniversaire, qui se poursuit jusqu'à l'année prochaine, parce que la branche féminine a été fondée un an plus tard, en 1869. Et quelle formation aviez-vous? Il fallait s'habiller, manger et parler la langue de l'autre. L'arabe, le swahili, des langues africaines aussi, en plus du français? Oui, et ne parlez pas ensemble.
Il a obligé,
oui.
que nous apprenions la langue des gens.
Oui.
On les rencontre, mais il est impensable qu'on les oblige à parler notre langue.
Oui.
Donc, nous apprenons la langue. Mm-hmm. Et aux confrères des premiers, il a même dit, je vous oblige, au bout de 6 mois, à parler entre vous, 3 ou 4 ensemble,
oui.
la langue du pays.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ça va donner des premiers dictionnaires de certaines langues qui ne sont que orales. Vous aurez de grands ethnographes, vous aurez des linguistes, vous aurez des grammaticiens, je ne sais pas moi, des interprètes de langues qui auparavant avaient été mises en parallèle. Oui, Elisabeth.
Il avait deux grandes consignes pour nous. C'était d'abord, oui, comme Gilles vient de le dire, apprendre la langue du peuple qui accueille. Puis il nous écrit « Je désire qu'au plus tard, 6 mois après l'arrivée dans la mission, tous les missionnaires ne parlent plus entre eux que la langue des tribus au milieu desquelles ils résident.
Mm-hmm. »
C'était sa première consigne. Et la deuxième, c'était de se faire proche des gens par la nourriture, le logement, le vêtement.
Mm-hmm.
Alors, c'est comme ça qu'on a eu aussi le nom de Sœur Blanche, Père Blanc, à cause de l'habit.
Forcément. D'ailleurs, est-ce que, si je télescope un petit peu dans les mouvements de décolonisation des années 1960, beaucoup de gens de l'élite avaient été formés par les Pères et les Sœurs Blancs, non? J'imagine que c'est un peu le retour de l'histoire, non?
nous avons commencé très tôt à penser en termes de ce qu'on dit maintenant église locale. Il faut qu'on puisse donner au lieu où nous arrivons, assez vite, le personnel capable de prendre en charge, sans les missionnaires, l'église locale. Donc, on a ouvert des petits et des grands séminaires. Les premiers prêtres africains d'Afrique de l'Est, c'est vers 1911 ou 1912 en Ouganda.
Si tôt.
Oui. On a commencé plus tard en Afrique de l'Ouest pour la simple raison que l'évangélisation a été plus lente. J'aime bien parler d'évangélisation en termes non pas de proposition de l'évangile, c'est vraiment ça, mais de viser à la pleine humanisation de chaque personne.
C'est-à-dire que vous appreniez au cours du 19e siècle et 20e siècle la culture locale pour voir, un peu comme les jésuites, où est le Christ là-dedans, le Christ qui ne demande qu'à sortir de sa gangue?
Et la langue étant un bon moyen de pénétrer déjà la culture. Si bien que même les sœurs ont lancé très vite des écoles ou des dispensaires, selon les besoins des populations où elles arrivaient. Et elles ont commencé, elles aussi, à penser en termes de formation d'un personnel pour la situation nouvelle qui allait être, qui allait devenir.
Elisabeth Villemur.
Oui, pour revenir sur cette idée qu'il fallait d'abord bien établir l'église locale avant de penser à nous. Par exemple, nous sommes arrivés en Tanzanie en 1894 et déjà en 1903, il y avait des filles qui demandaient d'entrer chez nous, mais avec la pensée du cardinal de bien établir l'église locale, ça a été une de nos contributions. Les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ont participé à la création de 22 congrégations religieuses africaines qui sont aujourd'hui autonomes, indépendantes, et quelques-unes d'entre elles sont déjà de droit pontifical. Plusieurs sont diocésaines aussi.
Alors justement, venons-en à aujourd'hui. Avec le tarissement des vocations en Occident, en Europe et en Amérique du Nord, parenthèse, vous êtes arrivé ici en 1901, je pense, non, au Québec?
Les Pères Blancs au Québec en 1901, les Sœurs Blanches deux ans plus tard.
Parfait, donc on revient à l'Afrique. C'est l'Afrique qui maintenant est le grand vivier de vocations, et forcément, ils n'ont plus besoin d'aller en Europe ou à Maison Carrée, je pense, c'était en Algérie, pour suivre des cours. Ils peuvent aller à Abidjan, ils peuvent aller à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
Au Kenya.
Au Kenya, il y a d'autres. Ils sont vraiment, je dirais pas autocéphales, mais autonomes.
Ils sont autonomes. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres congrégations missionnaires. Nous, on ne veut pas prendre
pas
sur
seuls,
nous d'avoir tout fait. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup contribué à la formation d'une élite qui est devenue élite politique.
Voilà.
Élite, par exemple, les centres de formation à l'enseignement social de l'Église ont existé en Tanzanie, au Burkina Faso et au Congo. Les sœurs infirmières ont été nombreuses. Les sœurs ont formé, avec le père docteur Lumière au Burkina Faso, ont travaillé sur l'éradication des causes de la cécité chez dans la population.
Oui.
Elles ont formé des infirmières.
On parle vraiment d'un travail de terrain. Vous n'êtes pas venu par-dessus de façon superstructurelle. Vous êtes entré comme le levain dans la pâte.
C'est ce qu'on a voulu, je pense, et les pères, et les frères, et les sœurs.
On rapproche souvent votre spiritualité ou les modèles que votre fondateur Charles Lavigerie, archevêque d'Alger, cardinal par la suite, il y avait trois grands noms qui sortaient chez lui régulièrement, c'était Saint Vincent de Paul, à vous entendre je le comprends, Saint Ignace de Loyola, c'est évident parce que les jésuites sont rentrés main dans la main avec les missionnaires d'Afrique, et aussi Jean-Jacques Ollier, qui pour nous est quand même un personnage historique au Canada français, mais Jean-Jacques Ollier comme apôtre de la sainteté ecclésiastique. Ça, c'était les trois noms qu'il citait souvent à la Vigerie.
Ollier, j'ai déjà vu qu'il a cité Ollier, mais disons qu'on n'a pas une dévotion spéciale à Ollier dans la congrégation, ni chez les Sœurs Blanches, mais les jésuites ont été là. La Vigerie leur a dit, je ne veux pas que vous en fassiez des petits jésuites. Mais j'en veux que vous en fassiez des apôtres, et moi j'en ferai des saints et des martyrs s'il le faut.
Il y a eu beaucoup de martyrs, j'imagine.
On a eu encore 4 qui vont être béatifiés bientôt. Là, bon.
Alors, on avait en Ouganda aussi, je pense qu'il y a eu les martyrs chrétiens d'Ouganda.
Les martyrs d'Ouganda, beaucoup, oui. Hein, oui. Les catholiques surtout, mais il y avait quelques anglicans, et puis l'un ou l'autre musulmans, je pense, qui ont été en même temps tués.
Oui.
Dès le début de notre arrivée là-bas, avant même que n'arrivent les Sœurs Blanches.
Alors maintenant, on est en 2018. La situation a bien changé. Les Africains ont pris le contrôle des choses. D'ailleurs, votre supérieur général, il est zambien, je pense, maintenant.
Oui.
Il succédait à un Kenyan ou
un Ghanéen.
Donc, la langue qui était le français et les langues africaines, ainsi que le swahili, maintenant c'est français-anglais. Je veux dire, ça devient presque une ONU locale.
On a commencé à avoir les deux langues officielles dans nos sociétés respectives, l'anglais et le français, pour la simple raison pratique que les pays colonisateurs étaient surtout de langue ou anglaise ou française. Même s'il y a eu des Allemands,
des
même s'il y a eu des Hollandais, même s'il y a eu des Italiens. Alors, les langues de formation du personnel, les écoles, etc., étaient l'anglais et le français. Donc, obligation pour tous les Pères Blancs et toutes les Sœurs Blanches d'apprendre les deux langues, français, anglais, plus les langues africaines.
Maintenant, on revient au Québec. Vous êtes un institut de droit pontifical, donc vieillissant ici. Il n'y a pas de relève. Vous faites venir des Africains ici, certainement. Quel est votre charisme, si j'ose dire, ici, autre que d'être une mémoire?
Je vais vous dire quelles sont nos orientations apostoliques. Ce que nous avons décidé pendant notre dernier chapitre de 2017,
oui.
C'est la rencontre et le dialogue interreligieux et interculturel, la migration, les réfugiés et les déplacés, troisième, esclavage moderne et trafic humain, et le quatrième objectif, c'est le soin de l'environnement.
L'environnement.
Oui, le soin de l'environnement.
Ça s'est rajouté un peu comme la cerise sur le sundae?
Non, mais c'est quelque chose qui est quand même d'aujourd'hui.
En effet,
on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de la planète, la Terre, et bon.
Donc, vous avez du pain sur la planche quand même.
Il y a du pain sur la planche, et puis nos sœurs, malgré leur âge avancé pour certaines, sont encore très missionnaires. Elles le sont jusqu'à leur dernier souffle, mais d'une façon bien différente.
Effectivement, oui.
Et la majorité actuelle des jeunes en formation qui sont proches de près de 500, une formation qui dure pratiquement 8, 9, 10 ans, sont de fait africains. Mais la centralité c'est de nos engagements, c'est le respect des religions traditionnelles africaines, l'étude de l'islam, puisqu'on a été fondé en monde musulman, l'approfondissement des cultures, et puis souvent, ça se fait par la rencontre personnelle, et là, on découvre des besoins en justice, il y a des injustices flagrantes, alors on est formé pour combattre à la manière chrétienne les injustices, le manque de dignité des personnes.
Élisabeth?
Vous savez, jusqu'à un certain temps dans l'histoire de notre congrégation, on pensait beaucoup que la mission, c'était l'Afrique, donc l'aspect géographique. Alors que maintenant, les Africains sont partout.
C'est juste.
Et dans la congrégation, je crois que nous avons fait un grand passage de se dire, on est missionnaire partout, les Africains sont ici. Alors, cette spécificité pour l'Afrique, on la garde, même dans nos pays d'origine, parce que
Pardonnez-moi, Elisabeth, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Vous commencez le 8 décembre à fêter les 150 ans et ça va finir le 8 décembre 2019 parce que la branche féminine des missionnaires d'Afrique a été fondée en 1869, donc il y a un an de battement. Peut-on avoir un avant-goût des activités? Ça va être quoi? Des conférences, des messes, des pèlerinages, enfin que sais-je, des banquets?
On est en train de réfléchir à toutes ces questions-là. Pour l'instant, on veut mobiliser nos sœurs et nos frères par région. Et qu'à eux d'inventer, selon leurs forces physiques et leurs capacités, les manières d'être présents. Est-ce qu'ils vont présenter un film? Est-ce qu'ils vont donner une conférence? Est-ce qu'il y aura une messe présidée par qui, etc.? Donc, on en est à organiser pour l'instant un certain nombre de rassemblements et des confrères et des consoeurs, ainsi que nos familles et les bienfaiteurs très nombreux.
Vous êtes nombreux encore maintenant?
Comme missionnaire d'Afrique homme.
Non, mais les hommes, les femmes, et puis tout l'écosystème qui gravite autour de vous.
quand on compte tous les bienfaiteurs qui sont assez nombreux et leurs enfants qui nous soutiennent, je ne peux pas avancer de chiffres, mais oulala, ça doit monter au-delà de 15 000 ou 20 000 qui reçoivent la revue.
La revue, c'est quoi?
Le petit bulletin de la congrégation.
D'accord. Ça, c'est à Montréal ou c'est dans le Québec ou dans votre province?
Dans la province de Québec.
D'accord. Mais vous n'êtes pas. La province de Québec est incluse dans une province beaucoup plus grande, je pense, non?
Qui comprend le Brésil, le Mexique, les États-Unis et l'ensemble du Canada.
Élisabeth Villemur, Sœur Blanche, donc missionnaire d'Afrique, merci beaucoup. Vous nous parlez de 150 ans de votre Institut de droit pontifical, l'Institut missionnaire. Gilles Barrette, Père Blanc, même chose. Mais vous, c'est 150 ans, une année plus tôt. Merci beaucoup de vos propos. Bon anniversaire.
Merci beaucoup et merci de nous avoir invités.
Ben écoutez, c'était extrêmement intéressant. Malheureusement, on doit écourter. Alors, on va terminer l'émission tout de suite. Et voilà, je voulais remercier Alexandra Jurgen à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie à votre tour d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.